BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle, François Sorel.
Un grand bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir sincèrement de vous retrouver comme chaque week-end pour De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à la tech que vous retrouvez sur 01 TV, la chaîne bien sûr, sur le web, la chaîne YouTube de 01 TV, puis sur BFM Business Radio TV le week-end. Avec au menu pour ce De quoi je me mêle tout à l'heure un point sur la 5G. Où en est-on du déploiement de ce réseau dont on nous promet monts et merveilles? Est-ce que les Français utilisent la 5G? On a déjà un petit élément de réponse quand même, c'est non. Voilà. On en parlera avec notre invité, un spécialiste de ce sujet et notamment du déploiement de la 5G, ça sera très intéressant. Et puis je vous rappelle que vous pouvez à tout moment avec le hashtag DQJMM sur Twitter réagir au contenu de cette émission et nous rejoindre sur la page Facebook. Et je vous rappelle aussi que De quoi je me mêle est disponible sur la plateforme RMC BFM Play qui est totalement gratuite. Vous pouvez retrouver tous les contenus d'Altis Media gratuitement, simplement en vous inscrivant, le live par exemple de 01 TV, mais aussi tous les De quoi je me mêle et toutes nos émissions. Merci d'être là et bienvenue. Et pour débuter, le club de la presse IT avec Anthony Morel qui est là.
Bonjour.
Anthony,
bonjour,
qui s'installe dans De quoi je me mêle. C'est un vrai plaisir que de le retrouver toutes les semaines.
Plaisir partagé.
Que vous retrouvez dans l'émission d'Estelle Denis sur RMC tous les jours, le matin sur BFM Business, sur BFM TV de temps en temps et dans De quoi je me mêle. Il nous fait l'amitié d'être là. Emmanuel Paquette, bonjour.
Bonjour François.
Emmanuel. Anthony Emmanuel, on en discutait juste avant, ils se connaissent depuis 1982.
Non,
c'est vache, c'est très très vache ce que je dis. Mais vous savez, le milieu en fait, des journalistes tech est assez petit. Hein, et vous le savez, Emmanuel,
de plus en plus.
Et oui, parce qu'il y en a qui partent à la retraite aussi.
C'est ça.
Et Emmanuel Paquette est journaliste à l'Express, bien évidemment. Alors l'actu de la semaine, on ne peut pas passer à côté. Anthony, Emmanuel, la keynote Apple, le rendez-vous de la rentrée avec de nouveaux iPhones, mais pas que Anthony, on a une petite voilà, une petite
sélection
sympathique.
Voilà, on a eu les Apple Watch, on a eu les iPads, et puis on a eu les iPhones, quatre nouveaux appareils. Bon, je peux pas cacher ma... Je ne vais même pas dire ma déception, c'était un peu à la hauteur de mes attentes, et mes attentes n'étaient pas très hautes, à vrai dire.
On en parlait déjà la semaine dernière.
Ouais, c'est ça, on en parlait déjà la semaine dernière. Mais tu vois, je trouve qu'il y a un point qui est assez symptomatique, c'est que même la presse anglo-saxonne, presse économique, presse tech, qui en général est très enthousiaste
tout
sur les keynotes d'Apple, bah là, était quand même titré en mode bof. J'ai retenu le titre de Bloomberg, Apple's new iPhones may be the weakest upgrade ever. Bon, c'est ça, ça calme, quoi. Donc
ça
voilà,
calme.
Les mises à jour de l'iPhone sont probablement les plus faibles qu'on ait jamais connu. C'est vrai qu'il y a quand même un petit peu de ça. Ça manquait de peps, d'un petit effet waouh. Bon, si on doit la faire courte, qu'est-ce qu'on retient de ces annonces sur les iPhones? C'est bon, processeur un peu plus puissant, l'appareil photo un petit peu mieux.
Voilà, même design que l'iPhone.
Même design, le notch qu'on réduit de 20%. Enfin, quand on est à faire des unes sur le notch qu'on réduit, l'encoche qu'on réduit de 20%, c'est que quand même, c'est que les nouveautés et que niveau rupture technologique, on n'était pas forcément là. Après, c'était prévisible dans le sens où on sait bien qu'Apple fonctionne par cycle. Qu'après une année faste comme l'année dernière avec l'iPhone 12, la 5G, le redesign de l'appareil, en général, il y a un creux de la vague l'année d'après, voire les deux années suivantes, et que du coup, les améliorations se font un petit peu plus à la marge. Du coup, bon, j'en attendais pas énormément,
oui,
et on
n'a
pas eu grand-chose.
Et puis après, finalement, Emmanuel, est-ce que c'est dans l'intérêt aussi de révolutionner à chaque fois l'iPhone chaque année? On voit que l'iPhone 12 a été un énorme succès. Voilà, on modifie quelques composants histoire de le remettre à jour, et puis... Apple va dérouler sans doute des prévisions de vente qui vont être monstrueuses encore cette année.
Ouais, effectivement, donc ils n'ont pas de nécessité de se réinventer, dans le sens, là au troisième trimestre, hein, puisqu'ils ont un exercice décalé à la fin septembre, au troisième trimestre, l'iPhone a fait quasiment 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 39 quelque chose, c'est quasiment 50% du chiffre d'affaires total, et surtout, c'est en progression de près de 50% sur un an. Donc avoir des ventes d'iPhone en progression de 50% sur un an, bon, pourquoi changer une recette qui marche et qui fonctionne bien? Donc, on peut comprendre effectivement le côté de bon gestionnaire, bon père de famille de Tim Cook, de faire des simples petites évolutions, des itérations un peu des évolutions de l'iPhone. Donc, de ce point de vue-là, en tout cas, d'un point de vue économique et financier, c'est plutôt compréhensible. C'est un peu conservateur, effectivement, puisque voilà, c'est pas, y a pas d'effet waouh, mais ça peut se comprendre. Ouais. En revanche, moi, la surprise, il y en a une, c'est pas du tout sur la techno, c'est sur le prix, parce qu'on en avait déjà parlé.
Oui, c'est vrai.
Je m'attendais, moi, à une hausse assez importante des prix en raison des problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs, microprocesseurs. Et là, finalement, c'est l'inverse, c'est-à-dire que pour le même prix que la précédente génération, on a des capacités de stockage supérieures.
Oui. Qui donc, double, hein.
Ouais, c'est
on passe de l'iPhone 12 à 64 Go à l'iPhone 13 à 128 Go en entrée de gamme,
voilà.
Ce qui commence à devenir confortable pour le même prix.
Absolument.
Exactement.
Absolument.
Et du coup, c'est un peu, moi, ça m'a un peu troublé de la part d'Apple, puisqu'on a l'habitude quand même qu'au niveau prix, il se lâche un peu, là, hein, surtout en cette période de tension sur les composants. Donc voilà, pour moi, ça a été vraiment une surprise. Les analystes annonçaient aussi des tensions sur les prix des iPhones.
D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que l'iPhone 12, qui est toujours en fait dans le catalogue de cette année, puisque vous savez que petit à petit, dès qu'il y a un nouvel iPhone, Apple refait le ménage dans sa gamme pour la rendre cohérente. L'iPhone 12 reste dans le catalogue. Il y a 100 € de différence entre l'iPhone 13 et l'iPhone 12, mais il y a 64 Go d'écart de stockage. Et finalement,
mieux
on
prendre
se dit que l'iPhone 12 n'a plus grand intérêt parce que finalement pour 100 € de plus on a le tout dernier modèle et en plus on a le double de capacité. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir que Apple là en termes de marketing est un peu moins bon sur ce coup là on se rend compte que le 12 finalement
n'a plus trop d'intérêt quand on
en a trop
de manière ouais, absolument,
d'ailleurs j'avais senti le coup venir puisque je viens de l'acheter.
Bien joué.
L'iPhone 12, bravo. Non,
c'est, tous les journalistes tech savent qu'il ne faut jamais acheter un iPhone avant la keynote de
cette année.
C'est incroyable.
Alors, parce que les prix étaient... Il y avait des fortes décotes sur Amazon, il y a eu une grosse décote. Donc, donc je me suis dit, tiens...
Tu vas y aller, quoi.
Ils ont gardé le nom iPhone 13. Il y avait une incertitude aussi là-dessus. Alors, j'ai vu qu'il y avait une étude publiée avant la keynote qui montrait que ça pourrait représenter un frein à l'achat pour 18% des consommateurs, ce qui n'est pas négligeable, quand même.
Enfin, c'est dingue, ça.
Ouais, il y a quand même beaucoup de superstitieux, quoi. Mais c'est vrai que sur le marché américain, européen, bon, bah, le chiffre 13.
Surtout si tu l'achètes un vendredi 13.
Voilà, en plus. Alors
là, c'est
le combo. Hein. Mais non, quand même. Alors, je comprends. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi sur la gestion de bon père de famille. C'est vraiment leur stratégie. Après, je trouve que. Il manque quand même dans ces keynotes là ce petit le one more thing, le petit truc qui nous vendait un peu du rêve sans revenir forcément jusqu'à l'époque de Steve Jobs, parce que voilà, on va pas en revenir tout le temps à Steve Jobs, mais il y avait quand même ce truc où voilà, il arrivait sur scène avec la petite enveloppe et puis il y avait le MacBook Air à l'intérieur et c'était incroyable, ou alors la petite phrase à la fin qui un peu comme tu sais quand tu vas voir un film Marvel, tu restes jusqu'après le générique parce que tu as le petit teasing pour la suite. Et là, je me dis que c'est bête parce que cette keynote, du coup, elle restera pas dans l'histoire très clairement. Mais en une phrase à la fin, Tim Cook, il pourrait, je ne sais pas, faire allusion à des lunettes en réalité augmentée, même d'une phrase très subtile sans nous dire exactement de quoi il s'agit, ou à l'Apple Car, de manière là encore, en une phrase ou en un mot. Et tout de suite, ça titillerait un petit peu l'imagination des fans et du monde entier. Et je trouve que ça manque un petit peu. Voilà, c'est un poil convenu. Poil convenu.
C'est vrai que ça manque un peu de saveur. Après, bon, nouvel iPad, l'iPad mini, ça c'est peut-être la plus grosse surprise de cette keynote. Hein. On savait qu'il y avait un iPad mini dans les cartons. Celui-ci est quand même en rupture par rapport au précédent. On se retrouve avec un iPad mini moderne qui intègre un nouveau design et un peu à l'iPhone 13, enfin qui est plutôt joli, qui est très cher.
Ouais, c'est ça.
Qui est très cher, qui a 700 et quelques euros, je crois, si on prend la version 4G. Et puis, quand même, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que malgré tout, Tim Cook ouvre sur Apple TV+. Je ne sais pas si vous avez vu. Ça devient de plus en plus important, avec une bande-annonce assez impressionnante de tout le catalogue, enfin en tout cas toutes les productions qui sont en cours. On voit que petit à petit Apple essaie de se créer une place au soleil dans ce domaine du contenu, quoi.
Mais il y a cette stratégie de Tim Cook, mais qu'il a déjà très clairement expliqué, qui est de devenir moins iPhone dépendant aussi, et donc de se diversifier dans les services, ou en tout cas de faire en sorte que les services soient une part de plus en plus importante de son chiffre d'affaires, et aussi avec la logique de cet écosystème, une fois que j'ai un iPhone, je vais acheter tous les services qui vont avec, et une fois que je vais vouloir voir j'ai vu une série qui me plaît sur Apple Plus, sur Apple TV Plus, forcément je vais être intéressé par le fait d'avoir tout l'écosystème qui va avec, donc d'avoir l'iPhone, d'avoir l'iPad, etc. Donc il y a vraiment cette logique de se diversifier et de devenir une entreprise non plus seulement de hardware qui est dépendante seulement des iPhones et un peu des Mac et des iPads, mais de vendre de l'abonnement, ce qui génère aussi des revenus récurrents, de l'abonnement et donc de la fidélisation du consommateur. Donc ça, c'est un enjeu hyper important pour Apple aujourd'hui.
Emmanuel, rien d'autre à rajouter sur
Non, la seule chose, c'est que c'est quand même un catalogue qui reste assez pauvre, hein, malgré tout, même s'il commence à s'enrichir. La grosse sortie, ça va être le Fondation, qui est donc la série dérivée d'Isaac Asimov. Donc c'est, je ne sais pas si vous avez la bande-annonce, il y a visiblement beaucoup de moyens financiers derrière cette série. Je crois qu'elle sort le 24 ou 25 septembre de mémoire. Donc effectivement, ça peut relancer l'intérêt. Mais aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas quand même... Il y a quelques séries un peu cultes, mais il n'y a pas le Stranger Things comme on a chez Netflix. Vraiment la série sur laquelle on a envie de s'abonner. Il n'y a pas Le Seigneur des Anneaux qui est attendu chez Amazon Prime, par exemple. Il manque un truc encore, vraiment une série ou un film qui fasse décoller le service. Pour l'instant, il y a des choses pas mal. Il y a Sign, il y a The Servant, etc.
The Morning Show, effectivement.
Mais voilà, est-ce que les gens s'abonnent pour ça? D'ailleurs, je crois que toujours, quand on achète un iPad ou un iPhone, on a toujours 3 mois. Ou 4 mois gratuits, je crois, de mémoire, pour l'Apple TV+. Donc, on voit bien qu'ils essaient de faire mordre le consommateur. Bon, ça marche moyennement. Et puis surtout, ils n'ont pas réussi à mettre la main sur le catalogue de la MGM, puisqu'il est parti ailleurs.
C'est Amazon.
Donc, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de contenu.
Ils ont laissé aussi partir Christopher Nolan, mais on en parlera tout à l'heure.
Exactement.
On aura une petite partie contenu et cinéma. On parle encore d'Apple avec cette fois-ci quelque chose de beaucoup plus grave, cette mise à jour d'iOS pour combler cette faille Pegasus. C'est vrai que ça a été un peu l'un des épisodes de cybersécurité de l'été, cette faille Pegasus avec des dizaines de milliers de smartphones infectés, des personnalités connues, des hommes et des femmes politiques. On ne va pas revenir sur l'histoire. Et donc, la mise à jour 14.8, je crois, comble cette faille Pegasus. Il était un peu temps, non, quand même.
Ouais, c'est vrai. Je te laisse commencer. Je crois que tu as bien bossé sur le sujet.
Mais effectivement, il était temps. Mais donc, ça, là, le système, c'était le système qui concernait directement iMessage, donc le service de messagerie de l'iPhone et de l'iPad. Et effectivement, donc NSO a développé un système.
Une entreprise israélienne spécialisée dans la sécurité.
Donc, ça a été créé par des anciens de l'unité 8200, qui est l'unité de cyber-renseignement de l'armée israélienne, donc de Tzahal.
Ça rigole pas. Tu leur files ton smartphone, tu peux avoir 18 codes.
Là, c'était vraiment un exploit. En plus, il n'y avait même pas besoin de toucher à quoi que ce soit.
C'est incroyable.
Exactement, avec un système one-click. Donc, en fait, on n'a même pas besoin de cliquer sur un lien pour nous amener quelque part, et une page infectée ou quelque chose comme ça. Tout se passait directement dans la messagerie iMessage. Et effectivement, Apple, ils ont mis un peu de temps à combler la faille de sécurité. Bon, là, c'est visiblement fait. NSO a fait un communiqué en disant qu'eux, ils voulaient toujours lutter contre le terrorisme, la pédophilie, etc., en vendant ces technologies-là à des États et des services de sécurité. Ça veut dire qu'ils vont trouver une parade très probablement au système d'Apple.
Ils ont déjà tout un listing de failles potentielles non comblées.
Exactement, oui. C'est vrai.
C'est qu'on ne le sache pas. Là. Ouais. Pour eux, c'est embêtant qu'on soit au courant de tout ça.
Exactement. Et c'est embêtant pour eux, c'est embêtant pour Apple, qui quand même a fait son marketing aujourd'hui sur la sécurité.
Absolument.
Donc c'est quand même pas très bon pour Tim Cook et Apple.
Donc un conseil sur ton iPhone 12 que tu viens d'acheter, qui est déjà plus update. N'oublie pas de faire ta mise à jour.
C'est fait.
Si t'es pas chef d'État ou ça doit aller, mais c'était assez. Ça a quand même mis. J'allais dire, il ne faut pas faire preuve de naïveté. On le sait évidemment qu'il y a une surveillance qui est exercée par les États sur des journalistes, sur des militants politiques, sur des adversaires.
Ça a toujours
été
le cas.
Non, mais clairement. Mais là, ça a quand même mis au jour, on va dire, l'ampleur du phénomène. Notamment quand on a su qu'Emmanuel Macron faisait partie de la fameuse liste des personnalités espionnées. Ce qui a permis aussi d'apprendre qu'Emmanuel Macron utilisait son iPhone. Ouais. Alors que normalement, il est censé utiliser des smartphones sécurisés. Enfin bon, quand on a vu le théorème de Thalès. Le fameux appareil, tu sais, qui ressemble, c'est pire qu'un 3310, tu sais, c'est vraiment les vieilles briques.
Pour envoyer un SMS, il faut 3/4 d'heure.
Faut un aide de camp qui vienne te donner le bottin pour que tu vas.
Un appareil photo 1 mégapixel.
Alors, je crois qu'il a deux trucs, parce qu'il a le théorème de Thalès, donc qui est le fameux téléphone ultra sécurisé, mais alors qui en termes d'expérience utilisateur, est quand même vraiment pas top. Et il a aussi un Samsung, un Galaxy S, je sais plus combien c'est, mais qui a été spécialement sécurisé par Aircom, spécialiste de la sécurité.
Donc c'est un Android sécurisé, c'est ça ?
C'est un Android sécurisé, mais le truc, c'est que à partir du moment où tu ajoutes des surcouches de sécurité, tu peux pas avoir, peut pas se faire une petite partie de Clash Royale entre deux rencontres avec des chefs d'État, ça c'est pas possible. Donc forcément, là encore, ça limite beaucoup tes perspectives, et on comprend que les chefs d'État, comme tout le monde, aient envie d'utiliser leur perso. Ouais. Ça a été le cas, Obama avec son BlackBerry, Trump au début de son mandat aussi, qui avait un smartphone pas sécurisé. Mais ça pose une vraie question. question. C'est-à-dire que c'est aussi une menace potentielle sur la sécurité nationale. Donc, est-ce qu'il faut forcer les chefs d'État à utiliser ces téléphones ultra sécurisés ? Vraie question.
Alors, le vrai sujet, c'est qu'avant, on avait des États qui étaient extrêmement puissants, qui avaient les moyens de faire ça. Et aujourd'hui, on a des entreprises privées qui peuvent vendre leur technologie à des pays plutôt de deuxième zone, troisième zone, qui n'ont pas ces capacités-là, et qui du coup se retrouvent avec des capacités similaires à la France, aux États-Unis, aux grands, quoi. Et donc on a des petits pays comme ça qui peuvent espionner à peu près veulent.
Oui, qui veulent, bien sûr.
Et donc c'est une forme de démocratisation de cette arme cyber, et ça pose un problème, parce qu'il n'y a pas beaucoup de contrôle à l'exportation, et ça c'est un vrai sujet.
On enchaîne avec cette tendance de lunettes connectées. C'est vrai qu'on a eu pas mal d'actu cette semaine avec Xiaomi qui, sur les réseaux sociaux, a fait tourner un petit visuel avec une petite vidéo d'un concept de lunettes connectées. Donc attention, quand on parle de concept, c'est que c'est pas pour tout de suite. Et tu voulais nous en parler, Anthony ?
Oui, bah c'est ça. C'est, en gros, c'est le serpent de mer, un peu l'un des serpents de mer de la tech, quoi. C'est qui réussira là où les Google Glass ont échoué ? C'était il y a 10 ans, les Google Glass, déjà.
Mon Dieu.
Ouais, oui.
10 ans.
Ouais, 10 ans, 2011. Bon, on sait que ça a été l'un des plus gros fails technologiques de ces dernières années, personne n'en a voulu, pour plein de raisons, parce que ça ressemblait pas vraiment à des lunettes. On avait l'air d'un cyborg, on avait l'air de... Bah, comme mon t-shirt, là, comme Vegeta avec son petit monocle qui analyse la puissance de cet adversaire dans Dragon Ball. Donc c'est pas génial. Il y avait le côté... respect de la vie privée aussi, le fait qu'on puisse filmer n'importe qui. Et donc là, on voit qu'il y a des concepts qui commencent à arriver, qui essayent de répondre en partie à ces sujets-là. Le concept de Xiaomi, c'est des lunettes qui ressemblent à des lunettes. C'est-à-dire que alors elles sont un petit peu plus grosses parce qu'il y a l'électronique, mais enfin, elles sont relativement discrètes et assez classe, et avec toutes les fonctionnalités réalité augmentée qui avaient été imaginées par Google, donc le fait de pouvoir avoir les flèches du GPS quand tu te balades. Ils imaginent même un système de traduction instantanée où quand tu es au restaurant dans un pays que tu connais pas, tu regardes le menu, ça va le scanner et ça va te le traduire instantanément. Et puis là aussi, la possibilité...
Tu peux prendre en photo ta fiancée.
Alors, tu peux prendre en photo ta fiancée. Alors ta fiancée, ça va, mais les gens dans la rue que tu connais pas, c'est toujours le problème, quoi. Ouais. C'est que là, c'est un petit peu plus...
On se posait déjà la question il y a 10 ans avec les Google Glass.
Mais je sais pas si tu te souviens, il y avait ce surnom qui avait été donné dans la Silicon Valley aux porteurs de Google Glass. On les surnommait les Glassholes. Donc, mélange de glace et de assholes. On va pas faire la traduction, mais enfin, on a bien compris ce que ça voulait dire.
Il y a popotin, pour vous dire un peu.
Voilà, c'est ça. C'est à peu près ça. Et avec toutes les, d'ailleurs, les dérives que ça peut aussi entraîner, par exemple, en Chine, la police teste. Alors, ils testaient il y a quelques années, je sais pas où ils en sont maintenant, mais des lunettes réalité augmentée avec des logiciels de reconnaissance faciale qui permet en scannant la foule du regard d'avoir les noms des personnes, et voilà, de reconnaître un opposant politique, peu importe, etc. Donc ça pose quand même des questions. Et pourquoi on en parle ? Parce que là, on a une multiplication. C'est-à-dire, il y a Xiaomi qui effectivement présente ce concept dont on ne sait pas quand ni même s'il sortira. Bon, mais on a aussi Facebook qui, quelques jours plus tôt, avait aussi réaffirmé ses ambitions. Mark Zuckerberg a dit clairement que pour lui, l'avenir du smartphone, c'était les lunettes. Que demain, les lunettes, la réalité augmentée, ça remplacera le téléphone qu'on a dans notre poche. Enfin, c'est quand même pas rien d'avoir cette ambition-là. Alors, ce qu'ils ont présenté est pour le coup un poil décevant, parce qu'ils ont présenté l'équivalent des spectacles de Snap qu'ils avaient sorti en 2015 ou 2016, donc avec des petites caméras intégrées aux montures, mais pas grand-chose de plus. Mais ils expliquent que c'est une première étape pour familiariser les gens avec le concept de lunettes connectées.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils se sont associés à Ray-Ban.
Oui, c'est ça.
Casser un peu cet aspect techno de lunettes de geek.
Ah, elles sont jolies. Hein.
Oui, elles sont jolies.
Elles sont plutôt jolies. Elles ressemblent vraiment à des lunettes.
Ça ressemble à des Ray-Ban.
Ça ressemble à des Ray-Ban, exactement. Mais toute la logique de Facebook derrière, c'est la grosse obsession de Zuckerberg en ce moment. Là, c'est l'idée du métaverse. Vous savez, le fait que avec
cet univers parallèle,
voilà, on va faire partie vraiment intégrante, s'immerger à 100% dans un univers numérique. Et donc, forcément, ces lunettes vont être partie intégrante de ça. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser. Je ne sais pas s'il faut y croire. J'ai cru au Google Glass à l'époque. Je l'admets humblement maintenant. Et bon, je me suis bien planté à l'époque. Donc là, est-ce que c'est l'heure ?
On avait eu l'occasion de les tester.
Bien sûr.
On avait tous fait des photos.
Ouais.
Il fallait tourner la tête comme ça pour voir l'écran. Enfin, c'était un truc. Moi, ça ne marchait pas.
Bah, moi, je me souviens que la démonstratrice, donc, qui était une ingénieure de chez Google, m'avait avoué... Elle m'avait dit qu'elle-même, à New York, je crois que c'était la bonne recherche de New York, elle ne les portait plus dans la rue parce que juste les gens lui jetaient des regards. Enfin, c'est juste, tu pouvais pas, quoi. Donc même les gens de Google, tu vois, hésitaient à les porter.
Ouais, ça c'est clair.
C'était pas très bon signe,
en plus. Ouais, c'est terrible. Quelque chose à rajouter sur ces lunettes, Emmanuel, tu y crois, toi, ou pas ?
Moi, j'y crois moyennement, mais je me suis trompé des fois, enfin pas mal, donc, mais j'y crois toujours moyennement.
Tu t'es trompé sur l'iPhone 12, tu peux pas te tromper sur tous les trucs quand même.
Mais pour revenir sur les spectacles, on en est quand même à la troisième itération hein, de Snapchat, ils n'ont pas lâché l'affaire, même s'ils n'en vendent pas des palanqués. Hein, donc la première génération, en un an, ils en avaient vendu 150 000 exemplaires, donc c'est pas énorme. Et là, concernant Facebook, il faut quand même savoir que les lunettes, donc à partir de $300, ne seront pas commercialisées pour l'instant ni en France ni en Allemagne. Je suppose qu'il y a des problèmes de RGPD, hein, de protection des données personnelles, notamment des gens que vous croisez dans la rue, parce que ce qu'on voit pas trop sur les lunettes Ray-Ban, c'est qu'en fait, il y a une toute petite lumière, mais c'est une micro-LED, donc on la voit à peine quand on te filme, on le voit à peine que t'es filmé, en fait, on peut pas le savoir. Contrairement aux spectacles, qui, eux, ont une petite roue qui tourne, donc on voit que la lunette est en train de nous filmer. Mmh. Dans le cas de Facebook, c'est tellement
discret,
un peu
plus subtil.
Ouais, que les gens ne le savent pas. Il y a eu une très bonne vidéo sur le Wall Street Journal où la personne a testé et a filmé des gens dans la rue et en allant les voir.
Personne
ne l'avait vu et d'ailleurs, les gens étaient plutôt mal à l'aise hein, pour le coup.
C'est clair. Bon.
Vous en croisez beaucoup, vous, des gens avec des spectacles ? Je crois que j'en ai jamais croisé.
J'en ai jamais croisé non plus.
À part les journalistes tech, j'ai vu personne en porter, je crois.
J'en avais croisé à Las Vegas. Mais bon,
c'est ça.
Il y avait même un stand donc, où on pouvait les acheter, en fait, ces lunettes.
Au CES ?
Ouais, bien sûr. Et il n'y a pas grand monde hein, qui les achetait. Je vous avoue que le stand, enfin, le pauvre représentant, là, le pauvre vendeur, il avait le temps de faire autre chose. Juste une petite précision concernant ces lunettes. On voit que il y a des expérimentations, des proof of concept, comme on dit. Mais est-ce que technologiquement, on est prêt ? Moi, j'ai l'impression que finalement, c'est du fantasme et qu'on n'a pas encore la miniaturisation possible, enfin, espérée. Et c'est un peu ce qu'avait dit Mark Zuckerberg il y a quelques semaines de cela. Il avait dit, voilà, aujourd'hui, on imagine, mais c'est vraiment dans 5 ans qu'on arrivera à avoir un truc qui tienne la route. Même Zuckerberg dit, voilà, on prépare l'avenir, mais c'est pas pour tout de suite.
Il est assez honnête là-dessus, c'est vrai.
Non, absolument.
C'est assez intéressant. Alors que c'est vrai que la vidéo de Xiaomi, qui donne un peu l'eau à la bouche comme ça, on se dit, ok, mais technologiquement, c'est quand même compliqué. Hein, d'autant qu'ils précisent que c'est... Alors eux, ils veulent vraiment avoir, contrairement au Google Glass, qui était relié au smartphone qu'on avait dans la poche, ils veulent en faire un appareil, un stand-alone, indépendant, quoi. Un truc, où on n'aurait plus besoin d'avoir son smartphone. Mais alors, ça veut dire qu'il faut avoir la puce 4G, 5G, enfin, toute la technologie vraiment à l'intérieur, quoi. Le truc qui doit chauffer en plus, enfin, c'est insensé. Je pense clairement.
Au mois d'août, ça va être sympa, tiens.
Comment ?
Au mois d'août ?
Oui, c'est ça.
On va avoir chaud aux oreilles.
L'hiver, c'est pas mal. L'hiver, c'est pas mal pour le coup. Hein,
c'est vrai que l'hiver, ça peut être bien.
Ça chauffe les oreilles, c'est bien.
Alors, on va parler maintenant de SVOD. Et de ce revirement un petit peu de la part de certains studios. Vous savez que suite à la pandémie, on s'est retrouvé dans des situations incroyables où toutes les salles de cinéma étaient fermées. Et il fallait malgré tout sortir des films. Donc les plateformes de diffusion, les HBO Max, les Disney+, etc., les Netflix, ont permis un peu de désengorger tous les catalogues des grands producteurs. Visiblement, on sortirait de cette pandémie. Et la plupart des grands studios essaient de reprendre une vie à peu près normale en réintégrant les sorties traditionnelles au cinéma, Emmanuel.
Oui, effectivement. Le dernier Marvel, par exemple, Shang-Chi, est sorti en salle, pas du tout sur Disney+. Ça lui a plutôt pas trop mal réussi pour l'instant. Hein.
Alors que Black Widow, qui est sorti juste au début de l'été, lui, était sorti en même temps aux US...
sur
salle,
Disney Plus
et sur salle. Disney Plus.
Mais en pas dehors, trop plus Scarlett Johansson.
Voilà, non. Qui a entamé donc une procédure en justice contre.
Bon, il fallait payer $30 hein, quand même hein, pour la.
Oui, c'est vrai. Oui, mais bon, elle a dit ça m'a fait perdre de l'argent parce que j'ai pas les recettes en salle. Quoi.
Exactement.
C'est vrai qu'elle a dû perdre quelques millions quand même, c'est embêtant.
Il y a eu le Cruella de Disney qui est sorti aussi directement sur Disney+. Et puis HBO Max avait été quand même les plus, les plus agressifs en la matière en disant que tous les films de 2021 sortiraient sur la plateforme en même temps qu'une sortie en salle. Donc notamment le Dune de Denis Villeneuve qui sort cette semaine devait sortir simultanément. Et puis Christopher Nolan s'en était un peu offusqué en disant mais moi je fais des films pour qu'on puisse les voir sur grand écran, pas sur un petit écran de salon chez soi. Et du coup là il y a une rupture, un divorce avec Warner et HBO puisque
C'est Tenet, visiblement.
Tenet a été le
déclencheur de tout ça.
Exactement. Et donc, il a décidé de quitter Warner. Il était rentré là-bas en 2002. Je crois que le premier film, c'était Inception, de mémoire, donc, pour ceux qui l'ont vu. Un très grand film, pour le coup. Mais, aujourd'hui, il est récupéré par Universal.
Il faut prendre deux Doliprane à l'avant, et après, c'est bon.
Restez concentré.
Voilà,
tu fais une micro-sieste, t'es foutu.
Non, là, tu fais une micro-sieste de 2 secondes, c'est fini.
Et donc, aujourd'hui, effectivement, il va chez Universal, avec des exigences qui étaient les suivantes. En gros, il faut financer son film à hauteur de 100 millions avec un budget marketing quasiment équivalent, donc ça fait déjà 200 millions, donc il a quand même certaines exigences, hein, et que le film soit présent en salle au moins 100 à 130 jours de manière exclusive avant d'arriver sur les plateformes.
Donc ça fait 4 mois quoi.
Ça fait 4 mois. Donc c'est visiblement ce délai qui a posé problème à Apple, qui était aussi dans la boucle hein, pour essayer de l'attirer, mais pour eux c'était beaucoup trop long pour pouvoir mettre le film sur le service Apple TV+. Donc finalement Christopher Nolan est parti chez Universal.
C'est intéressant parce que là on voit que les acteurs historiques du cinéma ont toujours leur mot à dire et leur carte à jouer, oui, avec cette double sortie finalement. Ouais. Pour Apple et Netflix, il est inenvisageable de dépenser des centaines de millions et ne pas sortir un film le jour J sur leur plateforme. C'est pas possible, c'est dans leur ADN. Et ils peuvent pas dire, écoutez, ça va, on le sort au cinéma, on attend 3 mois et après on le passe sur Netflix.
Exactement.
C'est impossible. Ouais. Alors que pour les Universal et Warner et toutes ces boîtes-là, ça fait partie de leur gêne finalement. C'est assez intéressant de voir que malgré tout, tant que le cinéma existera, ces grands studios ont toujours un sens.
Ils ont encore leur mot à dire, mais enfin, ils doivent pousser quand même un gros ouf de soulagement quand ils ont vu la décision de Disney. Hein, parce que le côté, on va finalement sortir le film d'abord sur notre plateforme et puis les salles, on les oublie. C'est quand même, surtout quand on parle de Disney, parce que Disney, c'est les plus gros films du monde, hein, de toute façon. Enfin, ceux qui font le plus de recettes, tous les Marvel, etc. Ça devait quand même devenir un petit peu compliqué. Donc là, quand on leur a dit, et d'autant que le fait aussi que les films sortent sur les plateformes avant de sortir en salle ou en même temps qu'ils sortent en salle, ça les rend aussi plus faciles à pirater. Donc ils se retrouvent sur les plateformes de téléchargement illégal, donc les gens les regardent en mauvaise qualité.
Et c'est un manque à gagner monstrueux.
C'est un manque à gagner évidemment monstrueux. Donc là, je pense qu'ils doivent être relativement content. Ouais.
Donc Disney Plus qui annonçait ça pourquoi pour 2022, c'est ça?
Non, là, déjà là, tout de suite, c'est pour la fin de l'année, à partir de maintenant. Donc
les films sortiront en priorité au cinéma.
Exactement.
Et après, en SVOD.
Les Marvel, il y a les Éternels qui vont sortir au cinéma directement. Et puis probablement, je crois qu'il y a un Pixar à la fin de l'année.
Il y a Encanto aussi. Là,
et Encanto, c'est ça.
C'est ça.
Ouais,
c'est ça. Ouais. Et il y avait un autre film, mais je me souviens plus du titre. Donc ça,
non, c'est pas grave. C'est peut-être le moins bien en plus. Donc,
voilà. C'était un Ridley Scott, je crois. C'est comment il s'appelle?
Ridley Scott.
Mais je crois.
En plus.
Je vais vérifier en même temps parce que sinon, ça va me rendre fou sinon.
Ah oui. Et puis si tu veux qu'on parle de ta PlayStation 5 pendant ce temps-là, Emmanuel.
Est-ce que
tu
es au courant
de l'épisode des PlayStation 5 de Emmanuel Paquette?
Je veux savoir.
Moi, je fais un an qu'Emmanuel essaie de trouver une PlayStation 5, il n'y arrive pas.
C'est pas vrai.
Pour l'instant, j'ai pas. Bon, effectivement. Mais c'est un peu comme, je pense que je vais attendre la 6 pour acheter la 5, comme avec l'iPhone 13 et 12.
Tiens, on parle de PlayStation 5, il y a une grosse mise à jour là.
The Last Duel,
voilà. D'accord. Grosse mise à jour de PlayStation 5 qui est disponible depuis hier, je crois, et qui apporte pas mal de choses. Le stockage des jeux sur un disque dur externe, c'est tout con, mais tout bête, pardon. Mais
ça posait beaucoup de problèmes.
On ne pouvait pas le faire,
c'est vrai.
Parce qu'on n'avait que le stockage de la PlayStation, et il y a aussi d'autres nouveautés que les fans de PlayStation 5 attendaient. On va parler de modération maintenant sur Facebook.
Ouais.
Voilà, Facebook qui traîne quelques casseroles, vous savez, voire même quelques couscoussières, hein, tellement que ça fait du bruit. Anthony, la dernière en date.
Ouais. Alors c'est un système de modération qui a été dévoilé par le Wall Street Journal. Et qui s'appelle Crosscheck. Alors ça s'écrit X-check, mais ça se prononce visiblement Crosscheck, pour vérification croisée. Et en gros, pour la faire courte, c'est l'idée selon laquelle y a un système de modération pour les riches et pour les pauvres, quoi, sur Facebook. On va dire, il y a celui du commun des mortels, et puis il y a celui des VIP. Alors, je ne sais pas dans quelle catégorie vous trouvez où on se trouve tous, j'en sais rien. En tout cas, apparemment, il y a une liste blanche de 6 millions de personnes environ, alors qui sont des personnalités politique, du monde du sport, des influenceurs divers et variés, et qui ont droit à certains égards. On sait qu'en général, Facebook, sur la modération, a plutôt la gâchette facile. Hein, dès qu'il y a un truc un peu, un bout de téton, ou même des propos...
Pour les anti-vax, ils n'ont pas eu la gâchette.
Oui. Non, c'est vrai, ça a pris du temps. Mais alors justement, c'est là que c'est intéressant de voir que, par exemple, sur les profils des personnalités agréé, on va dire, y a une tolérance encore supplémentaire. C'est-à-dire que la modération va prendre plus de temps parce que Facebook va vérifier, revérifier, re-revérifier. Et donc, Wall Street Journal donne quand même des exemples assez probants où, par exemple, Neymar, au moment où il a été accusé de viol, hein, c'est ça, par une jeune femme, a publié des photos de cette jeune femme sur son compte Facebook ou Instagram parce que ça fonctionne sur les deux. ce qui a entraîné un harcèlement, une vague de harcèlement sur cette jeune femme, alors qu'en temps normal, Facebook aurait retiré immédiatement les photos. Et
photos nues. Hein.
Voilà.
Ouais, photos nues.
Voilà, photos nues, oui, ça j'ai pas précisé.
En plus.
Donc elles auraient été retirées en quelques secondes ou en quelques minutes, alors que là, du coup, cette jeune femme a pu être harcelée pendant très longtemps. Donc il y a quand même des conséquences très, 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 très concrètes. Et ça ne peut pas ne pas faire penser à cette, à cette morale de La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, hein,
etc.
Les jugements.
Ah, ou celle de George Orwell.
George Orwell, c'est...
Tous les animaux sont égaux, mais certains, certains le sont plus que d'autres.
La ferme des animaux, bien sûr. Ouais, exactement, exactement.
Emmanuel,
bah alors, oui. Alors effectivement, comme le disait Anthony, le truc c'est que ces 6 millions de personnes ne sont pas forcément au courant qu'elles sont dans une liste blanche. Et l'argument de Facebook, en tout cas ce qu'a dévoilé le Wall Street Journal, c'est des documents internes dans lesquels Facebook a peur de l'impact médiatique que ça peut avoir de faire une modération sur Neymar et compagnie, c'est-à-dire de créer un espèce d'ouragan médiatique autour de Facebook, et ça ils veulent surtout pas, donc ils laissent
parce que déjà les ouragans ils sont dans des zones d'inconfort atmosphérique depuis pas mal de temps quand même.
Exactement, et ce qui est intéressant c'est que le Wall Street Journal visiblement a accès à des tonnes de données, donc va continuer à épisodiquement à sortir des informations sur Facebook. Visiblement, il y a une ou des personnes qui ont donné ces informations là, donc des lanceurs d'alerte qui demandent la protection des autorités américaines. Donc on ne sait pas qui est cette ou ces personnes. Ce serait vraisemblablement des gens internes hein, Facebook qui ont dû quitter l'entreprise.
Bien sûr, et qui avaient récolté enfin qui avaient
exactement des monceaux de données. Et donc le Wall Street Journal va continuer à taper tout le temps sur ce qu'on appelle les Facebook Files.
Voilà. Et justement,
mais oui, ils en ont balancé un autre d'ailleurs dans la semaine autour d'Instagram. En gros, apparemment, Facebook avait diligenté un rapport ou une étude interne et qui montre en fait la toxicité qu'a l'utilisation d'Instagram, notamment chez les adolescentes. Enfin, on connaît tous Instagram, c'est la vie rêvée, le truc pour te faire te sentir encore plus mal dans ta peau parce que tu as l'impression que tout le monde à côté a une vie de rêve.
Bien sûr, oui,
et donc ça, apparemment,
ça suscite des jalousies, des envies.
Bien sûr, de l'anxiété, etc.
Bien sûr.
Et donc ça, apparemment, Facebook, dans une étude interne, l'a démontré, l'a quantifié, mais n'en a pas fait grand-chose de plus. Quoi. Donc,
n'a pas communiqué.
Communiqué sur ces données et n'a pas pris de mesures pour limiter, on va dire, la toxicité du réseau.
Ouais.
Donc c'est quand même là encore problématique.
Ça risque d'aller loin cette histoire, non ? Parce que
déjà, souvenez-vous, hein, je pense que ce qu'on sous-estime, c'est qu'ils voulaient lancer Instagram pour les moins de 18 ans, je crois, ou les moins de 16 ans. Ou, en tout cas, Instagram Kids. Et donc là, ça va poser un souci parce que s'il y a ce biais-là déjà pour des adolescentes et qu'elles se sentent mal dans leur peau. On imagine sur l'impact que ça peut avoir pour des enfants. Donc, il va y avoir une pression forte pour que la version Kids ne sorte pas, je pense. Donc, on va voir si Facebook va pas se faire un passage en force, ce que je suppose. Parce qu'en face, il y a TikTok qui ramasse tous les jeunes. Hein, donc, ils ne vont pas vouloir laisser faire comme ça. Donc, ça risque d'être compliqué pour eux.
Ouais. Bon, on verra bien si tout cela va faire du bruit. Un mot sur TikTok aussi, avec deux enquêtes qui ont été ouvertes en Irlande sur les données personnelles des enfants envoyés en Chine.
Oui, alors il y a deux enquêtes. Il y a une enquête sur le respect des données personnelles qui sont effectivement généralement toutes envoyées en Chine. Donc sous quelle forme, comment, etc.
Que TikTok est,
Il appartient à ByteDance, voilà, donc entreprise exactement chinoise. TikTok n'est pas en Chine, hein, c'est une autre application qui s'appelle Douyin. Donc il y a deux applications, Douyin et TikTok. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième c'est pour les enfants de moins de 18 ans, donc les mineurs. Et là, quelle est la politique de gestion des données personnelles de TikTok quand il envoie ses données en Chine. Donc il y a une double enquête qui est ouverte. Alors on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas ça risque d'être compliqué pour le réseau social chinois. Hein.
Ouais, c'est vrai. Mais là, on a l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience européenne aussi de cette importance, du fait que voilà, des données personnelles de ressortissants européens puissent partir en Chine. On sait que les États-Unis avaient eu une position beaucoup plus ferme, enfin du temps de Trump en tout cas, où ils avaient lancé un bras de fer avec TikTok. Ils voulaient même, des groupes américains rachètent les activités de TikTok aux États-Unis. Et avec un argument qui pouvait s'entendre, c'est en gros la crainte qu'ils avaient, c'était que TikTok récolte des données personnelles de ressortissants américains et ensuite puisse les faire chanter contre leur propre pays. En gros, c'était ça l'idée. Hein. Et donc voilà, un adolescent, je sais pas, voilà, tu récupères des données sur sa vie personnelle. Enfin, en gros, le réseau social, on sait tous qu'ils nous connaissent mieux que nous-mêmes, et donc on va pouvoir réutiliser ces données-là. Et donc ils y voyaient. Un problème de sûreté nationale. Et je pense que c'est aussi une question, enfin, il ne faut pas être naïf, quoi, c'est une question qu'il faut aussi qu'on commence à se poser en Europe et peut-être commencer à instaurer ce rapport de force-là.
C'est amusant parce qu'on regarde derrière toi sur le mur d'images des vidéos de TikTok et il y en a un qui a nettoyé un robinet qui était complètement encrassé avec du ketchup.
Du ketchup, ouais.
J'étais fasciné par cette vidéo.
Moi, je fais ça toutes les semaines.
Si vous êtes avec nous en audio, je vous explique. Et donc, le gars met du ketchup sur son robinet plein de calcaire, il frotte et il est nickel. Donc, ça peut toujours servir. Hein,
écoute, moi, je connaissais le vinaigre blanc, mais
le ketchup, visiblement, marche
ketchup aussi. Hein, bon, voilà. Écoute, à tester ce week-end.
Moi, je préférais sur les frites, mais enfin bon, après, c'est une question de goût. Bon, ben voilà, l'actu du jour. Merci à tous les deux.
Merci
Anthony
François.
Morel, qu'on retrouve dans De quoi je me mêle régulièrement maintenant. Et merci aussi à Emmanuel Roquette, journaliste à L'Express. Anthony, que vous pouvez retrouver chez Estelle Denis tous les jours, BFM Business le matin et sur BFM TV. Vous restez avec nous, on va parler de la 5G. Est-ce que vous captez la 5G sur vos téléphones, messieurs?
Mais je n'ai pas de forfait 5G.
Et tu n'as pas de forfait 5G, est-ce que tu as un forfait 5G?
Non, mais j'ai un smartphone compatible 5G, pareil, mais j'ai pas le forfait. Non.
Et bah pareil, moi j'ai un smartphone compatible 5G, mais je n'ai pas de forfait 5G.
C'est révélateur ça, je pense. Hein,
ouais. C'est peut-être ça le problème.
Ouais, c'est le problème,
hein. On va en parler avec mon invité qui me rejoint dans un instant, Sébastien Kayser, qui est un spécialiste des réseaux. Il travaille au groupe Mozark. On vous explique tout dans un instant, à tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV. BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle, François Sorel.
Le retour de quoi je me mêle, à la fois sur 01 TV, sur BFM Business, en podcast audio, vidéo. Merci d'être là. On va parler de 5G maintenant. Ça fait quelques années qu'on en parle, ça fait quelques mois aujourd'hui que les principales villes françaises sont couvertes, notamment Paris, avec le baromètre 0net.com, COSY, que vous pouvez retrouver sur 0net.com, et qui nous dit quel est le meilleur opérateur 5G à Paris parmi Free, parmi SFR, Orange ou Bouygues Télécom. On va en parler avec mon invité qui est un spécialiste des réseaux et c'est toujours très intéressant de faire le point sur une nouvelle technologie et sur la manière en fait dont on accède à Internet et maintenant grâce à la 5G. Sébastien Kayser est là. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver dans De quoi je me mêle. Vous êtes le directeur en fait des technologies de Mozark que vous allez nous présenter, qui est la nouvelle maison mère de COSY, hein, avec lequel 0net.com a collaboré pour ce baromètre. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu Mozark, Sébastien?
Oui, bien sûr. Alors déjà, bonjour à tous et puis merci de l'invitation. Alors COSY, c'est une entreprise française qui a été fondée il y a à peu près une dizaine d'années maintenant et qui est le partenaire professionnel, que ce soit des collectivités, du régulateur ou des opérateurs et de plus en plus des entreprises autour de cette mesure de la connectivité, de cette compréhension de ce sujet de connectivité. Mais ce sujet de connectivité, il est mondial. Et nous avons fondé en 2019 un groupe international qui s'appelle Mozark et qui exerce la même expertise un peu partout dans le monde, en particulier en Asie et au Moyen-Orient et en Europe, bien entendu. On fait à peu près 60% de notre chiffre d'affaires en Asie. On a enregistré 70% de croissance l'an dernier. Et on accompagne plus d'une dizaine de régulateurs dans le monde, plus d'une trentaine d'opérateurs, j'en passe. Toujours avec ce positionnement, cet ADN qui est d'être professionnel, impartial et neutre dans l'analyse.
Mais vous mesurez la connectivité, c'est ça? Vous
avez
un peu la météo, le météo France du réseau, c'est ça?
C'est ça, dans son acceptation la plus professionnelle possible, c'est-à-dire on est là pour choisir les bons moyens pour faire le diagnostic d'une situation au bon moment. Donc nous avons nos propres logiciels de mesure et de restitution et d'analyse, mais nous utilisons aussi d'autres types de logiciels en fonction de la situation pour apporter la réponse la plus précise et la plus adaptée aux besoins de nos clients.
Et donc vous mesurez les réseaux, tout type de réseau en fait?
Tout type de réseau en effet.
4G, 5G, ADSL, 5G. Fibre aussi, ou vous faites que le mobile?
Non, on fait aussi du fixe. On fait du fixe, on fait de la mesure ponctuelle, on fait de la mesure permanente. On le fait nous-mêmes ou on passe par des partenaires. On a des montages assez originaux. On a, par exemple, avec la collectivité, avec Bourgogne-Franche-Comté, on utilise le réseau de collecte des déchets. Les éboueurs qui ont des chaînes de mesure embarquées et qui leur permettent de mesurer tout le territoire. Ou récemment, on a signé un gros partenariat avec Geoptis, le groupe La Poste, et nous utiliserons en France les tournées de facteurs pour avoir une mesure la plus fine de la connectivité mobile à l'adresse.
Ça sert à quoi de mesurer le réseau perpétuellement, la connectivité, Sébastien?
Alors, bon, l'expérience numérique aujourd'hui, qu'elle soit pour le citoyen ou les entreprises, elle est indispensable de nos modes de vie ou de la performance. Hélas, on le voit avec le Covid, plus que jamais, l'expérience numérique est indispensable au fonctionnement de nos vies, et pas seulement dans les grandes métropoles, mais aussi dans tous les territoires, et plus que jamais dans les territoires. Je dirais que c'est un enjeu d'aménagement du territoire, c'est un enjeu d'inclusivité, d'inclusion, et mesurer cette connectivité est indispensable pour savoir comment demain, peut-être, nous aurons une meilleure distribution des bassins de vie et d'emploi, comment cette économie, qu'elle soit physique, numérique ou certains disent digitale, se conjuguent dans le futur.
Et puis c'est important aussi pour stimuler tous ces acteurs aussi, non ? C'est vrai que le fait de mesurer comme ça la connectivité avec, bien sûr, chaque opérateur, ça stimule un peu la concurrence et les capacités aux opérateurs d'être encore meilleurs, non ?
Oui, alors forcément, les baromètres qui sont publiés, les études qui sont faites, engendrent des réactions, parfois des contestations. La difficulté du monde de la mesure, c'est qu'il est difficile de reproduire dans l'espace la même mesure deux fois.
Bien sûr.
Mais alors dans le temps, c'est impossible.
Évidemment.
Et être un professionnel, c'est chasser les biais à un instant T pour avoir quelque chose d'équitable, d'impartial, qui fait un diagnostic assez froid de la situation. Et la publication de ces résultats peuvent amener des réactions, mais elles sont étayées par des faits, des mesures, des analyses, des ingénieurs, des data scientists qui repassent derrière, qui vérifient à cet instant quelle est la qualité qu'on a obtenue.
Alors, on va parler de Paris dans un instant, bien sûr, puisque en fait, ce baromètre s'intéresse à la connectivité 5G à Paris, hein, pour les quatre opérateurs. Mais d'une manière générale, on voit que les opérateurs et les quatre opérateurs français mettent les bouchées doubles hein, pour accélérer aujourd'hui la couverture 5G. C'est vraiment, vous le voyez, vous, dans votre observatoire ?
Alors, nous positionnons beaucoup du côté de la qualité d'expérience. Donc, quand on parle de couverture, on est dans un raisonnement très opérateur, c'est-à-dire je déploie des mâts, j'allume les antennes, j'adresse un secteur.
Mais c'est intimement lié, cela dit.
C'est totalement lié, mais du côté de la mesure de la qualité d'expérience, on utilise plutôt la notion d'accessibilité. La qualité d'expérience, c'est quoi ? Vous avez trois étages à la fusée. Vous avez déjà l'accessibilité au service. L'opérateur peut dire j'ai couvert tel endroit, mais si vous, votre téléphone avec votre abonnement, vous ne voyez pas marqué, ben peut-être c'est couvert, mais...
Oui, ça ne marche pas concrètement.
Et nous sommes la voix du citoyen, du client, d'accord ? Donc d'abord, la question de l'accessibilité.
Ça arrive souvent, ça, ces petites arnaques, non ? Mais une zone couverte sur une carte et qui finalement n'est pas couverte dans la réalité, ça arrive souvent ?
Alors, couverte, pas couverte, ça peut être un défaut technique. Couverte, pas accessible, il y a toute une chaîne de services derrière qui doit être fournie par l'opérateur. C'est pas de l'arnaque, on est dans une phase de déploiement de ces solutions, c'est un marché qui est jeune. Les terminaux eux-mêmes parfois rencontrent des problèmes, donc toujours dans cette logique d'éliminer les biais, il faut être vigilant à toute étape.
Non, mais c'est vrai qu'on peut imaginer que les opérateurs aiment bien aller gratter quelques pourcentages de territoires supplémentaires. Voilà, sur une carte, ça fait joli.
Tout à fait.
Alors que bon, concrètement, quand on est à la limite de la couverture, voilà, sur la carte, en théorie, ça, on capte, mais finalement, on ne capte pas.
Oui, et alors, sur cet élément-là, la stratégie fréquentielle va être absolument déterminante. La stratégie de localisation des antennes va être absolument déterminante. Et pour ça, il faut qu'ils puissent les déployer. Donc, il faut aussi qu'ils aient accès aux emplacements. Mais si je reviens à l'image de la fusée, la qualité d'expérience pour un client, un citoyen, c'est quoi ? C'est déjà, le service est accessible.
Bien sûr.
Ensuite, est-ce qu'il est performant ? Vous pouvez l'accéder, mais si vous ne pouvez pas télécharger, naviguer, il n'est pas performant.
C'est pour ça, de temps en temps, l'été, on voit, on est en 4G, on a plein de barres, et puis en fait, le réseau est tellement saturé qu'on n'arrive pas à envoyer un SMS, etc. C'est cette qualité-là, c'est-à-dire qu'on a accès au réseau et ça ne marche pas.
Et pourtant, ça ne marche pas. Et ensuite, il y a le troisième étage de la fusée, qui est l'usage. Est-ce que les usages sont correctement servis par cette performance accessible.
Et les différents usages. Les réseaux sociaux, les vidéos, la musique, etc.
Exactement. Et nous avons fait un choix lors de cette étude de nous concentrer sur les deux premiers étages de la fusée, c'est-à-dire l'accessibilité et la performance. Pourquoi pas les usages ? Parce que les usages aujourd'hui de la 5G pour le grand public ne sont pas encore trouvés, ne sont pas clivants. C'est-à-dire qu'on va le voir, vous avez des performances de la 5G qui sont remarquables et qui, naturellement, servent les usages qui sont déjà servis en 4G. Nous n'avons pas encore les usages clivants qui permettent de discriminer proprement. Et ça, je pense que c'est le sujet de 2022 et des années à venir.
En gros, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, un smartphone récent, qu'il soit en 4G ou 5G, l'expérience client, elle est comparable, en fait. C'est ça ?
C'est délicat, mais dans la grande majorité des cas, dans la moyenne des usages, il n'y a pas encore de choses qui disent « Ah oui, ça, ce n'est pas possible ». Vous savez, quand on est passé de 2G en 3G, on a dit « Mais on n'a pas besoin de 3G pour faire des SMS ». Puis 3G en 4G, on n'a pas besoin de 4G pour faire des
mails. Oui, mais il y avait quand même une accélération des débits, multimédia, etc. Là, une bonne 4G, finalement, sur votre téléphone, vous ne verrez pas la différence entre une bonne 4G et une 5G.
Vous le verrez quand même, très notablement, sur les vitesses de téléchargement.
Oui.
Mais c'est du confort. Ce n'est pas bloquant. Ce qui va devenir bloquant, c'est l'émergence de nouveaux usages. Alors, est-ce que demain, c'est de la réalité virtuelle, augmentée ? Je ne sais pas.
Bien sûr.
Et on sera très, très curieux.
Et puis, pour l'industrie et les professionnels, mais ça, c'est un autre débat.
Tout à fait.
Comment ce baromètre sur Paris, comment ça se passe, en fait, qu'on peut retrouver sur le site de zeronet.com ? Je vous invite d'ailleurs à le retrouver, hein, en collaboration avec Cozy. Comment mesurez-vous la 5G à Paris, par exemple ?
Alors, la question du protocole à mettre en œuvre, déjà nous sommes au plus proche du protocole de l'ARCEP pour mener ces tests. Tout l'enjeu d'un protocole, c'est de déterminer une cible d'observation, comme je vous le disais, donc nous sommes concentrés sur l'accessibilité et la performance du service, et d'éliminer les biais. Donc, première chose pour éliminer les biais, il faut faire des mesures en simultané, 4G, 5G, avec les mêmes terminaux pour tout le monde et des forfaits les plus moyens possibles. La deuxième chose qui est importante, c'est de comprendre qu'on utilise des forfaits du marché et qu'on parle de profil 4G ou de profil 5G. Mmh. Quand vous êtes abonné avec votre carte SIM 4G, vous voyez la 4G. Quand vous êtes abonné avec un profil 5G, vous voyez la 5G et la 4G.
Et oui, bien sûr.
Et ce n'est pas parce que vous avez un profil 5G que vous n'allez pas de temps en temps naviguer en 4G. En fonction des zones, vous allez rebasculer en 4G.
Est-ce que Paris est bien couverte en 5G aujourd'hui ?
Alors, Paris, aujourd'hui, on peut dire, si on saute directement en conclusion, Paris, sa couverture en 5G est une réalité, est en nette progression. Vraiment. On a constaté une progression remarquable. On avait fait un premier test, une première enquête en avril dernier. Là, cette enquête a été menée en juillet. On observe des progressions qui sont absolument remarquables.
Donc, en 3 mois, les opérateurs ont mis les bouchées doubles pour ouvrir des sites 5G.
Tout à fait.
Un fond quand même qu'il y avait aussi ce problème d'acceptabilité de la 5G, notamment à Paris. La mairie avait freiné les cas de fer. Enfin, il y a eu plusieurs semaines de moratoire concernant la 5G. Donc finalement, les opérateurs ont pu se préparer un petit peu et appuyer sur des boutons, en fait. C'est ça, jusqu'en juillet.
Oui, tout à fait. Et à nouveau, ce n'est encore qu'un déploiement en cours. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une phase de maturité comme on connaît sur la 4G aujourd'hui. Mais ce qui est vraiment déterminant à avoir en tête, c'est la stratégie fréquentielle de chaque opérateur. Puisque plus vous avez des fréquences hautes, on va parler par exemple de 3,5 GHz, et vous avez des fréquences basses, par exemple du 700 MHz, qui est utilisé notamment par Free. Disons que plus une fréquence est basse, et plus elle porte loin. C'est comme quand vous écoutez de la musique, en général, c'est les basses du voisin qui résonnent chez vous, pas les aigus. C'est pareil. Donc, le truc, c'est que dans les fréquences hautes, les opérateurs possèdent beaucoup plus de bandes passantes, et donc peuvent fournir une performance beaucoup plus élevée.
Donc plus de débit.
Beaucoup plus de débit.
Mais
avec une portée moindre.
Et bien voilà. C'est ça. Et en fait, chaque opérateur a sa stratégie concernant ses fréquences.
Exactement. Nous avons des stratégies aujourd'hui de déploiement et d'acquisition du marché qui sont très différentes d'un opérateur à l'autre. Et cette tendance qu'on avait observée en avril se concrétise aujourd'hui. En juillet, là, on a confirmation que c'est une stratégie affichée. Nous avons, par exemple, Free Mobile qui souhaite couvrir au plus vite, au plus loin le territoire, et donc une stratégie très agressive, pour le coup, d'accessibilité au service, en utilisant du 700 MHz, une fréquence basse qui porte loin. Là où nous avons des opérateurs comme par exemple Orange et SFR, qui vont plutôt favoriser les fréquences hautes pour fournir un maximum de performance sur le service accessible.
D'accord.
Et Bouygues Télécom qui joue les équilibres en essayant d'apporter une qualité de service à peu près régulière sur les différentes composantes de l'offre.
C'est pour ça qu'à un moment, il y avait ce débat chez Free, notamment, de la fausse 5G, parce que, étant donné qu'elle les mettait, enfin en tout cas que Free avait décidé de privilégier en fait le déploiement de la 5G sur les basses fréquences, même s'ils ont du 3,5 GHz aussi. À certains endroits, on va dire, dans des zones urbaines, ils ont du 3,5 GHz.
Très peu.
Est-ce que, oui, peu par rapport aux autres. Est-ce que on peut considérer qu'il y a une 5G à deux vitesses, sans mauvais jeu de mots?
Alors déjà, le débat de fausse ou vraie 5G, d'un point de vue purement technique, toute la 5G qui est déployée aujourd'hui est une 5G qui est dite non-standalone, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas exister sans de la 4G en dessous. Donc c'est en plus, c'est le boost. Et dans les années à venir, ils vont peu à peu remplacer la partie...
le cœur de réseau.
Le cœur de réseau de la 4G qui est utilisée par un cœur de réseau 5G. Et là, on va avoir en plus des gains de performance significatifs.
Même en basse fréquence?
Alors, même en basse fréquence, dans la limite, puisque après c'est de la physique.
Oui, c'est de la physique, hein, bien sûr.
C'est, après,
c'est le spectre.
C'est la plage de spectre disponible. Si votre tuyau il est plein, votre tuyau il est plein. Ça, on n'y peut rien. Donc, c'est plutôt comme ça que j'entends vrai ou fausse 5G. Tout le monde est à la même enseigne, et pratiquement dans le monde entier. Vous êtes en 5G appuyé sur de la 4G aujourd'hui.
Et alors le verdict, quels sont les meilleurs opérateurs à Paris? Est-ce qu'il y a vraiment des différences entre nos quatre opérateurs français?
Alors, oui, il y a des différences et elles s'expliquent à nouveau, comme je le disais, par la différence de stratégie.
Bien sûr, oui.
Donc, en termes d'accessibilité au service, le premier point qu'on voulait chercher. On est aujourd'hui sur Paris, là l'enquête s'est portée sur une cinquantaine d'adresses, on a fait 6400 tests. Donc c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Et ce sont des tests qu'on fait à chaque fois avec des chaînes 4G et des chaînes 5G. Et on analyse chaque trace, chaque transmission en détail pour savoir un peu comment ça se comporte. Ce qu'on voit, c'est qu'on a deux opérateurs, Orange et SFR, qui sont des opérateurs qui ont misé à fond sur le 3,5 Go et l'extrême performance du service.
Et là, on arrive à des débits qui dépassent les 500 Mbps, hein, visiblement.
C'est
vraiment impressionnant. Hein.
Oui, oui. Alors, attention, il y a ce qu'on appelle le débit moyen, le débit, en fait, où vous vivez, et le pic de débit.
Le débit crête.
Le débit crête, exactement.
D'accord.
L'instantané est intéressant à avoir en tête dans cette technologie qui est jeune. L'instantané, c'est le potentiel dans lequel la 5G nous amène à terme. C'est ça, l'information. Le débit moyen, donc là, on le voit sur le tableau, d'ailleurs, c'est l'instantané qui est là. Le débit moyen, c'est l'expérience client que vous avez aujourd'hui. Quand vous êtes citoyen et que vous voulez télécharger votre fichier ou quoi que ce soit, voilà le débit moyen que vous observez. On atteint des débits moyens qui sont très conséquents. On a des débits descendants qu'on a atteints de plus de 500 Mbps pour Orange comme pour SFR.
D'accord. Donc on peut dire que Orange SFR, en zone 3,5 Go, écrase les autres, on est d'accord, en termes de débit et de qualité de réseau. En revanche, Free va avoir des débits moins élevés du fait de sa couverture 700, mais avec peut-être une couverture 5G qui ira plus loin, en fait, c'est
oui,
ça.
Oui, vous aurez un taux d'accroche peut-être qui sera supérieur.
D'accord.
Là, il faudrait s'étendre en dehors de l'île de Paris intramuros pour avoir cette
pour
vision.
Voir cette différence-là.
En tout cas, c'est vraiment la stratégie qui revendique.
Et Bouygues, dans tout ça?
Et Bouygues marie les équilibres en fournissant une performance qui est quand même assez remarquable, avec 360 Mbps en débit descendant, donc à nouveau dans les contextes d'observation qui ont été les nôtres, et qui monte progressivement. Nous, on a vu, entre avril et juillet, en termes de déploiement fréquentiel, des progressions incroyables. On a Bouygues qui est monté de plus de 20 points en accroche de haute fréquence sur Paris. SFR, c'est près de 40. Free aussi est beaucoup monté. Orange avait déjà mis le paquet sur la 3.5 et on voit vraiment ces stratégies se mettre en œuvre maintenant.
On est au tout début, bien sûr, hein, de l'histoire de ces réseaux et c'est vrai que voilà, la 5G aura encore quelques mois et quelques années de déploiement un peu partout sur le territoire. Hein. On reviendra sur les usages de la 5G qu'on trouve, qu'on n'arrive peut-être pas encore à trouver pour le grand public. Et puis aussi se poser la question, pourquoi tous les abonnements aujourd'hui des opérateurs ne sont pas compatibles 5G? C'est un autre problème, hein, peut-être d'ordre marketing ou commercial. Mais aujourd'hui, à part Free, pour les autres opérateurs, pour avoir de la 5G en général, il faut payer un petit peu plus cher pour avoir ce débit. Est-ce que c'est vraiment pertinent? On verra bien. Merci beaucoup Sébastien Kayser pour toutes ces précisions.
Merci beaucoup.
Voilà, rappelons que vous représentez la société Mozark et Cozy, donc, et ce baromètre 01net.com Cozy que vous pouvez retrouver sur le site 01net avec la couverture 5G à Paris. Voilà, ce De quoi je me mêle est terminé. On sera là le week-end prochain, bien sûr. Merci de nous suivre sur 01 TV, en podcast audio et sur BFM Business le week-end. À très bientôt.
De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.